Alors, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je suis très heureuse d'être avec vous et aborder ce sujet délicat, qui est le lien entre la maladie d'Alzheimer ou ses consoeurs et un désir d'autodélivrance avec l'aide d'Exit. Certainement, vous suivez dans les médias, dans les journaux, à la télé, toutes ces émissions, ces articles qui traitent le sujet de la maladie d'Alzheimer. Depuis maintenant bien quelques années, nous en avons un certain nombre et j'ai relevé juste quelques titres. Parce qu'effectivement, dans les médias, nous parlons de la maladie d'Alzheimer, comme une sorte de tsunami qui nous arrive en pleine figure. C'est un épouvantail. Des témoignages qui disent oui, j'ai Alzheimer et non, je ne dis à personne, donc c'est encore un sujet tabou et délicat à aborder. Ou bien l'autre titre, Alzheimer, la démente maladie qui fait tant peur. Donc en effet, je dirais que les médias, depuis bien quelques années, à part le fait qu'il y a quand même une meilleure vulgarisation de la maladie, les médias ont joliment réussi d'en faire un épouvantail. Dans la majorité des reportages et dans des articles, nous parlons de la souffrance, du fardeau, la charge qui pèse sur les proches. On nous montre des malades principalement dans des stades très, très avancés de la maladie. Donc, effectivement, cette image dévastatrice de la maladie, elle est bien là et bien entrée dans la mentalité. En même temps, c'est vrai aussi que depuis bien quelques années, ce qu'on aime au sein de notre société, c'est les choses sensationnelles, le côté dramatique. Donc peut-être on ne doit pas s'étonner si on parle des maladies qu'on appelle maintenant neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer fait parler, que ce côté sensationnel, elle est bien là. Alors j'aimerais dire juste deux mots sur la terminologie qui change sans cesse et régulièrement renouvelée, aussi grâce au progrès de la médecine et la technologie. Mais au cours de l'histoire de l'humanité, on a toujours parlé des personnes principalement âgées qui sont devenues, selon les termes d'époque, séniles, gâteux, fous, perdus ou retombés en enfance, ou voire même gaga. Depuis les années 70, c'est le terme sénilité qui est entré à la mode. Par la suite, nous parlons de démence, de différents syndromes démentiels, de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le fameux docteur Alzheimer, Alois, déjà en 1906, il a fait la description scientifique de cette maladie-là. Donc, le terme maladie d'Alzheimer, depuis le début du XXe siècle, déjà entré gentiment dans les mœurs. Nous avons parlé aussi, à une époque dans les années 80, du syndrome psycho-organique. Et depuis quelques années, on change de terminologie. Au lieu de dire maladie d'Alzheimer, parce qu'il n'y a évidemment pas que la maladie d'Alzheimer, nous parlons des maladies au pluriel neurodégénératives ou bien des troubles neurocognitifs mineurs qui deviennent par la suite majeurs, ou nous parlons de vieillissement cérébral pathologique, et je n'ai pas énuméré toutes les appellations. C'est clair que la médecine évolue depuis 100 ans fortement, mais déjà il y a 200 ans en arrière, un célèbre médecin français, le docteur Esquirol, a donné une magnifique définition et une petite description en une phrase ce que c'est, disons, la maladie d'Alzheimer, en disant que le dément est un riche devenu pauvre. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est que, n'est-ce pas, les malades d'Alzheimer et les autres étaient, avant la maladie, avant de tomber malade, comme vous et moi. Et de cette richesse des compétences, le malade est en train de perdre ses aptitudes, ses compétences, donc il est en train de s'appauvrir. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase, le dément est un riche devenu pauvre, parce que ça nous dit tout sur cette perte des compétences. Et j'ai remis le logo de l'association Alzheimer Suisse. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous utilisons plus en plus ces nouvelles terminologies, troubles neurocognitifs mineurs, majeurs, etc. Et j'ai constaté dans ma pratique, au bout de ces 35 ans de pratique, que parfois le grand public ne comprend plus tellement de quoi nous parlons. Est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? De quoi nous parlons? Est-ce que c'est suite à un AVC? Il y a des difficultés vasculaires ou qu'est-ce que c'est? Et j'aimerais juste souligner que d'un côté, c'est bien, la médecine avance, il y a beaucoup de progrès qui se font. Peut-être les terminologies changent, surtout à l'usage des spécialistes, mais le grand public garde l'appellation maladie d'Alzheimer et surtout partout dans le monde et dans quasiment tous les pays, il y a des associations Alzheimer. Et ces associations Alzheimer sont là pour défendre les intérêts des personnes qui vivent avec ces maladies et de leurs proches. Donc, ça me paraît important pour une meilleure compréhension de continuer à dire maladie d'Alzheimer qui, dans un langage courant simple, regroupe toutes ces maladies neurodégénératives. Alors, très rapidement, regardons un peu les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, bien sûr, tout le monde connaît les problèmes de mémoire, tout le monde connaît les difficultés d'orientation dans le temps et dans l'espace. Tout le monde connaît qu'au bout de quelques années d'évolution, il peut y avoir des difficultés au niveau du langage, que le malade ne trouve pas ses mots, n'arrive plus à faire un calcul simple. Donc, petit à petit, au fil des années, il y a des difficultés de pouvoir effectuer des gestes simples de la vie de tous les jours. Et il n'y a pas seulement ces troubles, comme je viens de décrire brièvement, qu'on appelle troubles cognitifs ou intellectuels, mais il y a bien sûr aussi des difficultés de type dépression, anxiété, devenir irritable, devenir un peu plus apathique, ou avec l'avancement de la maladie, il peut y avoir chez une minorité de malades des troubles psychocomportementaux. Ce que j'aimerais particulièrement souligner, chers membres d'Exit, c'est le fait qu'il s'agit des maladies évolutives qui évoluent lentement et progressivement. Il ne s'agit pas du tout d'une maladie qui nous change d'une année à l'autre. C'est 12, 15, 20 ans d'évolution. Et chaque cas est unique. Chaque cas évolue à son rythme, avec ses particularités, et l'apparition des symptômes ne suit pas non plus une liste, une sorte de check-up des symptômes, pas du tout. Chez chaque personne, il y a une symptomatologie, un tableau clinique individuel et particulier, mais retenons surtout le fait qu'il s'agit d'une longue maladie qui est lentement évolutive, qui est progressive. Juste quelques chiffres, ce sont les chiffres de l'association Alzheimer Suisse. En Suisse, nous sommes environ 2 millions de seniors. Selon l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes seniors dès la soixantaine. Donc, tous ceux qui ont franchi le cap de la soixantaine comme moi, et jusqu'à 100 ans, nous formons le grand groupe des seniors, dont nous sommes environ 2 millions. Et sur ces 2 millions de seniors en Suisse, donc il y a 9 millions d'habitants, sur les 9 millions, il y a 2 millions de seniors, il y a 153 000 malades. Donc, vous voyez, tous ceux qui avancent en âge ne développe pas une forme de maladie d'Alzheimer. Chaque année, il y a environ 33 000 de nouveaux cas, comme évidemment il y a aussi des décès. Et une autre particularité de la maladie d'Alzheimer, c'est le fait que parfois, ça touche aussi des personnes jeunes, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Et il y a environ 7600, comme on dit, jeunes malades. Donc, pour être dans la catégorie de jeunes malades, le diagnostic doit être posé avant l'âge de l'AVS. Peut-être encore un chiffre, qu'environ 70% de cas, c'est des dames. Donc, majoritairement, c'est des dames. Peut-être aussi à cause de notre espérance de vie. Et le petit tableau récapitulatif avec la carte de la Suisse, bien sûr, c'est en fonction de la grandeur d'un canton ou la densité de la population d'un canton. Vous voyez bien combien Genève, et tout le monde sait, c'est un petit canton, mais très, très fortement habité. Donc, il y a plus que 8000 malades. Il y a des petits cantons où il y a très peu. Au Tessin, on doit juste relever le fait qu'il y a beaucoup de retraités entre Suisses allemands et même Suisses romands qui aiment aller vivre au Tessin. Donc, le nombre de cas relativement élevé au Tessin vient de là. Et c'est clair, quand on voit le canton Berne et son immensité, c'est pas étonnant qu'il y a plus de 20 000 malades recensés. Alors, au sujet du diagnostic, quel est notre plus grand souci? Et je dirais à nous tous, c'est le fait que le diagnostic tombe souvent trop tard. Il y a même, selon des études récentes suisses, il y a même 7 ans de retard. Donc, il se passe X années jusqu'à ce que le malade et son proche aidant arrivent chez les spécialistes. Alors, quelles sont les raisons pour ce retard dans le diagnostic? Alors, tout d'abord, il y a le fait que, bien sûr, quand on avance en âge, on a tous peut-être des petits problèmes de mémoire, on se rappelle plus du titre du film qu'on vient de voir au cinéma, et les petits symptômes au début, mémoire, petites difficultés d'orientation, tout ça s'est mis sur le compte de l'âge. Donc, il y a une forme de banalisation, on minimise les difficultés, puis on pense, mais papa, il est âgé, mais c'est normal, etc. Donc, les symptômes sont mis sur le compte de l'âge. Deuxièmement, on a bien vu tout à l'heure à quel point la maladie d'Alzheimer représente un épouvantail. Et cette peur trop répandue face à cette maladie, qui est bien sûr légitime, il s'agit des maladies incurables, mais cette peur de diagnostic retient les personnes et les personnes qui commencent à présenter des difficultés ne vont pas chercher de l'aide, donc ne vont pas aller vers les spécialistes pour clarifier la situation. Troisièmement, et surtout en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer maladie pure, si vous voulez, c'est le fait que cette maladie a cette particularité qu'elle s'installe d'une manière insidieuse. Donc, c'est quasiment pas possible de dire que ça a débuté en février 2024 parce que le début est insidieux. Et par rapport à ce fait-là, que le début est insidieux, nous devons aussi tenir compte du fait que chacun de nous, nous avons, on appelle ça, une réserve cognitive. Nous avons chacun de nous nos capacités à nous. Et puis, quand les petites difficultés commencent, d'ailleurs aussi avec l'âge avancé en général, un petit ralentissement de pas trouver ses mots, selon la réserve cognitive qu'on a, on trouve des stratégies pour faire face à ces petites difficultés qui démarrent, l'utilisation de post-it ou se référer davantage à son conjoint pour certaines tâches. Donc, c'est tout à fait possible, pendant bien quelques années, d'utiliser des stratégies qui nous permettent de continuer à gérer notre vie et puis aussi un tout petit peu de dissimuler la réalité. Mais je dirais qu'un diagnostic est précoce est indispensable parce que rester dans le flou, rester dans des mauvaises interprétations en ne comprenant pas ce qui se passe, c'est pire. Il y a 3 risques majeurs si ce diagnostic tarde à venir. Alors, ça nous fait tomber exactement dans notre sujet pile poil, c'est le fait que si le diagnostic arrive tardivement au bout de plusieurs années d'évolution de la maladie, eh bien, la capacité de discernement du malade peut-être est déjà partie ou fortement atténuée. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui est diagnostiqué au stade pas débutant, mais modérément avancé de la maladie, eh bien, cette personne n'a plus sa capacité de discernement et ne peut pas prévoir, envisager son avenir et se prononcer par rapport à ses souhaits. Le deuxième grand risque par rapport au diagnostic tardif, c'est le fait que si le malade n'est pas au courant, ça veut dire aussi que le proche aidant ou la famille n'est pas au courant. Et ça, c'est un gros souci. Parce que si le proche aidant ne comprend pas ce qui se passe, il fait des fausses interprétations, peut-être régulièrement, il gronde son malade. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as fait comme ci, comme ça? Pourquoi tu as mis les clés au frigo, etc. Le malade va développer aussi des troubles du comportement parce qu'il ne reçoit ni de soutien, ni d'aide. Donc, quand le proche aidant, comme son malade, ne sont pas au courant de ce qui se passe, l'accompagnement devient, comment vous dire, problématique et non adapté. Donc, c'est un gros problème. Et troisièmement, n'est-ce pas, s'il n'y a pas encore de diagnostic, eh bien, ce tandem, le malade et son proche aidant ou sa famille, ils ne vont pas solliciter les professionnels. Donc, c'est grave. Donc, ils ne reçoivent pas ni des conseils, ni des aides, ni des pistes. Donc, vraiment, c'est un gros souci, le diagnostic tardif. C'est clair, le diagnostic, c'est un moment difficile pour le malade. C'est une période longue qui prend parfois 2-3 mois. Il y a d'abord la rencontre, l'entretien et l'examen chez le médecin traitant. Il y a bien sûr aussi la consultation de mémoire, donc les spécialistes qui interviennent. Il y a l'imagerie médicale, il y a un examen de laboratoire. Récemment, on utilise plus en plus la ponction lombaire. Et surtout, il y a l'examen auprès d'un psychologue qu'on appelle examen cognitif ou on dit aussi examen neuropsychologique ou bilan cognitif. Toutes ces investigations vont aboutir, bien sûr, à une synthèse et, ces résultats sont transmis au malade qui est invité avec son proche aidant. Puis à ce moment-là, on lui explique de quoi il s'agit et nous parlons d'une probabilité parce qu'en réalité, la certitude de quel type de maladie d'Alzheimer ou une autre forme de maladie neurodégénérative il s'agit, ça, on a donc la véritable certitude, si vous voulez, scientifique, ça, on a uniquement à l'autopsie du cerveau. Donc, tant que le malade est en vie, et ça dure bien 12, 15, 20 ans, nous parlons d'une probabilité. Rapidement, les formes les plus fréquentes de ces maladies neurodégénératives, donc Alzheimer et ses consœurs, c'est la maladie d'Alzheimer qui est la plus fréquente, y compris avec la démence vasculaire, et ce que, grâce aux études via IRM et autres investigations très complexes, nous savons qu'il y a plus en plus de cas qu'on appelle démence mixte, qu'il y a autant en côté vasculaire, donc des dégâts vasculaires qui touchent le cerveau, que des dégâts typiquement style Alzheimer. Il y a également les trois autres formes plus fréquentes de démence ou maladie neurodégénérative, c'est la démence à corps de Lévy. Il y a la démence qui est associée à la maladie de Parkinson. C'est pas rare. Environ 40% des malades qui ont la maladie de Parkinson, au fil des années d'évolution, ils vont développer des sérieux troubles cognitifs. Il y a aussi la démence frontotemporale, comme vous voyez sur cette image. Mais nous pouvons encore rajouter la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la fameuse vache folle version pour humain. Il y a aussi la démence éthylique. Il y a aussi la démence en lien avec un sida avancé. Il y a la maladie de Huntington. Donc, il y a beaucoup de cas de figure, juste pour vous dire. La maladie d'Alzheimer représente environ 70% des cas. Donc, c'est pas pour rien. Partout dans le monde, et c'est pour cette raison-là, les associations Alzheimer gardent cette appellation parce que c'est ce qui fait comprendre à monsieur et madame tout le monde de quoi il s'agit. Alors, on entend la musique maintenant. Ça nous fait de la concurrence. Alors, on arrive à la fin de vie. Donc le diagnostic est posé chez le malade. Il y a trois manières, si vous voulez, d'envisager les dernières étapes de la vie. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont une confiance aveugle dans la médecine et souhaiteraient d'être soignées, même s'ils comprennent que ces maladies sont incurables. Ils souhaitent le traitement médicamenteux, la surmédicalisation, donc quasiment nous sommes dans le cas de figure d'acharnement thérapeutique. Il y a des personnes qui sont dans l'acceptation des choses et puis se disent, ben oui, tôt ou tard après il y aura des soins palliatifs et puis j'irai peut-être en EMS. Et puis effectivement, il y a plus en plus de personnes, tout en sachant très bien jusqu'où ça peut aller, la maladie d'Alzheimer et ses consorts, souhaitent, tant que leur capacité de discernement leur permet, de s'en aller. Effectivement, la maladie d'Alzheimer, avec sa lente évolution sur 12, 15, 20 ans, jusqu'à un stade très, très avancé, représente, surtout dans les stades avancés, bien sûr, une fin de vie, une longue fin de vie très difficile. On pourrait même dire une longue agonie très, très difficile. Depuis l'Antiquité, l'homme, enfin nous tous, on a réfléchi par rapport à cette fin de vie, cette grande souffrance, ces longues agonies, et cette idée de ne pas vouloir aller jusqu'au bout, de ne pas vouloir vivre une longue agonie, est venue. J'aimerais juste vous lire que déjà il y a 2000 ans, donc vous voyez, c'est pas du tout un sujet récent de vouloir s'en aller un peu plus vite avant de vivre une longue agonie avec plein de souffrances. Sénèque, le grand philosophe romain qui disait il y a exactement 2000 ans, ce qui compte, c'est de vivre bien, pas de vivre longtemps. Si la vie la plus longue n'est pas toujours la meilleure, la mort qui se prolonge est toujours la pire. Pour sa vie, on a des comptes à rendre aux autres. Pour sa mort, à soi-même. La meilleure mort, celle qui nous plaît. C'était Sénèque il y a 2000 ans. Alors, l'idée de Sénèque était reprise à travers des siècles par des grands écrivains, des grands philosophes, des grands penseurs, depuis le XXe siècle par Dipsy, Freud, Paul Ricoeur, donc tout le monde a repris cette idée. Et récemment, effectivement, notre gourou de développement personnel, Jacques Salomé, a repris aussi cette idée de Sénèque en disant très simplement, mais très bien, il ne faut pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Et c'est ce qui compte pour chacun de nous. Ce n'est pas la longueur qu'on arrive à 96 ans, mais dans quel état on arrive. Donc voilà, on est pleinement dans le sujet de la capacité de discernement. Donc si un malade Alzheimer ou quelqu'un qui a une autre maladie neurodégénérative souhaite s'en aller, ben avec l'aide d'Exit, il faut bel et bien qu'il puisse avoir encore sa capacité de discernement. Quand nous parlons de cette capacité de discernement, on doit bien comprendre trois verbes, trois choses. Donc, il s'agit de comprendre sa propre situation et les choix qui s'offrent à lui, de pouvoir évaluer les conséquences de ses choix et de pouvoir décider quelle option on prend. Donc, il faut pouvoir comprendre, évaluer et décider. Donc, cette capacité de discernement, elle est présente ou absente pour un objet précis. Chez les malades d'Alzheimer, cette capacité de discernement est influencée évidemment par l'aggravation et la fluctuation des troubles cognitifs. Il y a aussi cet état dépressif, c'est-à-dire au début de la maladie, pendant bien des premières années, quand le malade il est plus que conscient de son état et tout ce qu'il est en train de perdre, il réagit à cette constatation avec un état dépressif qu'on peut appeler état dépressif réactionnel et normal, car c'est en lien avec une prise de conscience de son état. Donc un état dépressif qui peut être fort, un état anxio-dépressif fort chez un malade, peut fortement influencer sa capacité de discernement. Parce que vous voyez quelqu'un qui est effondré, déprimé, eh ben, a moins de capacité à réfléchir. Et troisièmement, je dirais, un autre élément qui influence aussi la capacité de discernement chez un malade, qui est au début de sa maladie, c'est le fait quand un accompagnement venant de ses proches n'est pas adapté. Quand les proches, ou principalement le proche aidant, ne comprend pas la maladie et ses conséquences. Ça donne des effets vraiment dévastateurs sur le malade. Alors, ce sujet, la maladie d'Alzheimer et la capacité de discernement, est fortement étudié depuis longtemps. Beaucoup d'études scientifiques attestent que la capacité de discernement chez les malades perdure au stade débutant jusqu'au stade modérément avancé. Alors, bien sûr, le problème est qu'il y a un moment qui est difficilement prédictible où le discernement se perd. Il y a un terme technique qu'on utilise pour parler de cette perte de la capacité de discernement, c'est le terme anosognosie. Et puis c'est le cas de figure quand les malades qui sont pourtant déjà bien perdus s'estiment pas malades parce qu'ils surestiment leur propre capacité. Donc ce que nous devons retenir, c'est que si le diagnostic est posé, parce que parfois notre difficulté vient du fait que le diagnostic était posé beaucoup plus tardivement, déjà au stade modérément avancé, puis les proches disent, ah ben, il n'a plus de capacité de discernement. Parce qu'on devrait se référer depuis combien d'années la maladie évolue. Donc, retenons que la capacité de discernement perdure jusqu'au stade modérément avancé de la maladie et c'est au bas mot 6, 8, parfois 10 ans. Et aussi en lien avec la réserve cognitive du malade et sa manière de faire face qu'on verra tout de suite. Donc, quand il faut partir, bien sûr, c'est ça la grande question. Donc, pour dire aussi un peu cruellement et simplement, assez tôt, quand le discernement est là. Donc, si le malade tarde à décider, il y a un risque, à un moment donné, subtilement, il y a un glissement vers le moment où il n'y a plus de discernement. Donc ça, c'est le chemin, un peu comme je disais comme titre, ça c'est le chemin hasardeux de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il se passe bien quelques années où le malade maîtrise beaucoup de ses compétences, même si petit à petit il y a des pertes et puis il y a des difficultés, et le malade garde sa pleine compréhension de ce qu'il vit, d'ailleurs sa dépression souvent ou son état anxio-dépressif, mais il y a hélas un moment délicat qui veut dire que un malade d'Alzheimer ne peut pas attendre se trouver dans un stade avancé de la maladie, car à ce moment-là, dans un stade avancé, la capacité de discernement est déjà hélas disparue. Alors, regardons de côté du malade. Donc, on est dans le cas de figure qu'un malade chez qui il y a un diagnostic clair et net de maladie d'Alzheimer est posé et ce malade souhaite pas aller jusqu'au bout, souhaite se référer à Exit. Alors, le malade devrait tout d'abord quand même préparer ses directives anticipées en général, réfléchir jusqu'où il voudrait aller, quel est le moment ou quel est ce symptôme qui signifierait pour lui que ça suffit comme ça. Donc, chez un malade, on doit tenir compte, déjà, quand même aussi ce phénomène du deuil blanc. Le deuil blanc n'est pas uniquement vécu par les proches, mais par le malade aussi. Un malade, pendant ses premières années d'évolution de sa maladie, donc 6, 8, 10 ans, il est tout à fait conscient de tout ce qu'il est en train de perdre. Il vit en lui tous ces changements. Donc, il y a ce côté anxio-dépressif qui le touche. Comme je disais déjà, une personne qui a une bonne réserve cognitive, ça lui permet d'utiliser des stratégies. Donc, le rôle de la réserve cognitive, c'est important. Et surtout, après, le style de vie et des stimulations cognitives que le malade et ses proches mettent sur pied. Donc, c'est tout à fait possible de faire face à la maladie et de maintenir, ralentir l'évolution à condition que le diagnostic était posé au début, que le malade a pu accepter qu'il s'agit de cette maladie, il a le souhait de faire face et il développe, on regardera à travers un exemple, comment il peut se maintenir. Donc ça, c'était en ce qui concerne le malade. Regardons maintenant la situation du proche aidant. En effet, on doit toujours penser qu'il y a un tandem. Donc, nous avons le malade et il y a le proche aidant. Malheureusement, il y a 17% des malades d'Alzheimer, ce sont des personnes qui vivent seules. Eux se trouvent dans une situation très difficile car il n'y a pas de proche aidant. Et ils ne peuvent pas bénéficier ni de son accompagnement, ni de son aide. Mais quand il y a un proche aidant, qui est par la suite, bien sûr, le représentant thérapeutique, ce proche aidant a un rôle capital, car depuis le diagnostic, le proche aidant doit rester extrêmement attentif, extrêmement soucieux, il doit être un très bon observateur et il doit bien être conscient de l'aggravation de l'état de son être aimé. Le sujet d'exit, si c'était, n'est-ce pas, le désir du malade, espérons que le malade et son proche aidant sont sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Ce sujet doit être quand même, au sein de ce tandem, discuté de temps à autre. Ça ne peut pas devenir le sujet tabou que peut-être le diagnostic était posé, le malade, très vite, il a pris sa décision, je veux devenir membre d'Exit, le jour J, j'aimerais partir, et après, pendant X années, plus parler de ça. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc, ce qui compte le plus, c'est que autant le malade doit pouvoir garder en tête son désir d'autodélivrance et vouloir s'en aller à un moment donné avec Exit, et son proche aidant doit garder ce rôle d'observateur et faire attention à des signes d'aggravation. Quel est le rôle du médecin? Parce que dans toute cette histoire, vous voyez, il y a le malade, son proche aidant et quand même le médecin. Alors bien sûr, le médecin traitant, normalement, doit pouvoir attester la capacité de discernement de son patient, surtout s'il s'agit d'un médecin traitant qui connaît depuis un certain temps son malade. En effet, il n'y a pas vraiment un outil standard internationalement reconnu qui serait vraiment accepté par tout le monde. Et le médecin qui doit établir le maintien ou la perte de la capacité de discernement, il doit, n'est-ce pas, voir calmement son malade, par la suite aussi le proche aidant. Il doit avoir son temps pour faire un entretien comme ça. C'est pas en un quart d'heure de contrôle, de routine que ça va se décider. Le médecin doit être empathique. Évidemment, il doit pas être contre l'exit. Face à un patient qui, petit à petit, bien sûr, présente déjà ses symptômes, ses difficultés, le médecin doit adapter son langage pour que son malade comprenne les questions de son médecin. Et puis alors, effectivement, ça vaut mieux un médecin déjà expérimenté qu'un tout jeune médecin, peut-être qui connaît pas encore son vieux patient, à qui on demande de l'attestation. C'est toujours un tout petit peu délicat. Donc, je disais qu'il n'y a pas d'échelle universellement utilisé et reconnu, mais l'échelle qu'on utilise le plus pour la capacité de discernement, c'est l'échelle de Silberfeld. Ça revient, comme je disais tout à l'heure, comprendre, évaluer, décider. Donc, effectivement, ça demande quand même un plus long entretien et un investissement très empathique de la part du médecin pour pouvoir établir la capacité de discernement. Et comme chez des malades Alzheimer et consorts, il s'agit de l'existence déjà des troubles cognitifs et pouvoir attester que malgré l'existence des troubles cognitifs, la capacité de discernement, elle est encore bien là. Le petit test qu'on utilise depuis exactement 50 ans, c'est le test, comme on dit en anglais, le mini mental state de Feuerstein, que depuis exactement 1975 on utilise. C'est un petit bilan cognitif extrêmement simple que les médecins généralistes peuvent tout à fait utiliser. C'est sur 30 points, il y a 30 items. Si le malade, le patient obtient en tout cas 25 points, il n'y a aucun problème. Nous avons la capacité de discernement, c'est attesté. Quand on arrive autour de 24 points jusqu'à 18, on est dans une sorte de zone grise. Ici, il y a déjà un risque de perdre cette capacité de discernement. Et clairement, si le résultat à ce petit test, qui est vraiment élémentaire, si les résultats du patient sont en dessous de 17 points, le médecin sait très clairement qu'il y a un problème, donc il y a une perte de capacité de discernement. Quand le médecin obtient autour de 24-18 points, donc cette fameuse zone grise, il peut toujours solliciter et collaborer avec un psychologue qui va faire un bilan, comme on dit, neuropsychologique ou cognitif complet. Alors, question de temps, je me permets de raconter, parce qu'il y aura encore un témoignage, j'aimerais raconter pour illustrer mes propos mon amitié avec Rita, une charmante dame que j'ai connue pendant 8 ans. Quand ça s'est commencé? Tout d'abord, il faut dire que Rita était une infirmière cadre. Elle a travaillé dans un hôpital lucernois, puis elle vivait dans le canton de Zoug, juste à côté. Autour de l'âge de 50 ans, Rita, à l'hôpital où elle travaillait, elle constatait qu'elle a oublié le numéro de chambre du patient, elle a oublié une consigne que son collègue venait de lui donner, donc petit à petit des difficultés. Courageusement, elle est allée voir son médecin, donc elle avait 50 ans, puis elle lui a dit, « Mais docteur, écoutez, moi je suis convaincue, hélas, que j'ai la maladie d'Alzheimer. » Par ailleurs, elle a soigné des malades d'Alzheimer. Le médecin lui a dit, mais non, madame, vous êtes infirmière, vous êtes dans un épuisement, c'est le fameux burn-out. 6 mois d'arrêt de travail, antidépresseur, reposez-vous, on verra bien. Eh bien, ni les antidépresseurs, ni les 6 mois d'arrêt de travail, ça n'a rien fait du tout. Rita, elle a repris le travail et hélas, elle a constaté qu'elle a plus en plus de difficultés. Elle a lutté pendant 2 ans, bien sûr, elle était jeune. Donc, elle fait partie de cette petite minorité de malades jeunes. Et puis, au bout de 2 ans, disons, ça faisait mal au cœur, mais elle a gagné son combat. Finalement, grâce à la consultation de mémoire de Bâle, où elle a dû aller, elle a obtenu le diagnostic qu'elle avait bel et bien la maladie d'Alzheimer. Immédiatement, elle a informé, Rita était à ce moment-là divorcée, elle avait 2 enfants, grands adolescents. Elle a informé ses enfants, sa famille, son directeur, ses collègues. Et comme elle était déjà trop sachante qu'elle a des difficultés, elle a demandé de plus travailler comme infirmière cadre diplômée, mais comme simple aide-infirmière. Elle a travaillé comme ça un certain temps. Après, ça n'allait plus. Bien sûr, la maladie évolue. Après, elle a demandé qu'elle aimerait être juste dame de ménage à l'hôpital et travailler à mi-temps, mais elle aimerait quand même venir au travail. On lui a accordé ça. Elle a encore travaillé un certain temps, puis un beau jour, bien sûr, c'était plus possible. Rita, elle a relevé le défi de faire face à la maladie. Elle a sollicité des aides. À un moment donné, elle a compris que ses affaires administratives, elle peut plus les remplir. Elle a demandé à la Croix-Rouge de l'aider. Elle avait aussi petit à petit des soins à domicile. Elle a mis sur pied des aides. À un moment donné, elle, qui était une excellente cuisinière, ne savait plus tellement comment faire la cuisine. Elle a pister que dans sa région, à 30 minutes de chez elle, il y a un EMS. Elle s'est inscrite pour les repas à midi avec des personnes âgées qui avaient 20, 30 ans plus qu'elle, qui allaient là-bas au foyer de jour. Et comme chaque jour, elle avait un plan de stimulation. Donc Rita, elle s'est dit, je me bats. Je fais mon maximum. Elle s'est inscrite dès le début à Exit, mais elle s'est dit, je me donne du temps, je me bats. Chaque jour, elle lisait une heure en anglais. Elle cherchait dans les dictionnaires les mots qu'elle connaissait pas. Elle savait bien le français. Elle lisait une heure chaque jour en français pour maintenir son français. Elle faisait une heure de Nordic walking chaque jour. En réalité, elle faisait la marche rapide jusqu'à l'EMS, elle mangeait là-bas, elle revenait en marche rapide. Elle s'est inscrite aussi en cours de conversation chez Prosenectutet en anglais. Puis comme je disais, elle a lutté pour avoir le diagnostic, elle voulait cette clarification. Puis quand le diagnostic est tombé, puis elle avait autour de 52-53 ans, elle s'est dit, mais certainement je ne suis pas la seule jeune malade. Et via Internet, elle m'a trouvée, parce que depuis 2011 jusqu'à 2021, j'avais un groupe qui s'appelait Groupe Carpe Diem. C'était destiné un groupe de soutien pour des jeunes malades suisses romands. Et Rita, elle m'a trouvée via Internet, parce qu'en 2013, il n'y avait pas du tout de groupe de soutien pour des jeunes malades d'Alzheimer en Suisse allemande. Et imaginez-vous, elle s'est imposée aussi comme petit défi. Chaque mois, de canton de Zoug, elle est venue jusqu'à Marsens. Chaque mois, pendant 5 ans. Elle était la seule Suisse allemande. Elle avait effectivement un relativement bon niveau de français, mais elle s'est dit, mais c'est aussi un défi. Je viens, je parle avec des autres jeunes malades avec qui elle a développé une magnifique amitié au fil des années. Donc, environ, elle est venue 60 fois dans le canton de Fribourg. Et entre Rita et moi, il y a eu une belle amitié. Et elle est venue aussi chez nous. Donc voilà, Rita, elle est venue jusqu'à 2018. Donc elle avait son plan d'attaque contre l'Alzheimer, mais elle savait très bien qu'un beau jour, il faudrait s'en aller. Elle a tout préparé. Elle a tout préparé, testament, faire part, aviser ses enfants, aviser son entourage. Donc c'était une femme extrêmement courageuse. Depuis 2018, donc au bout de 5 ans, elle venait plus dans mon groupe. Ah oui, j'ai oublié un élément. Vous voyez, je suis un peu très émue. Donc, elle a commencé à venir en 2013. Et ça lui a tellement plu de pouvoir côtoyer des autres jeunes malades qui vivent quand même tout autre chose que les personnes beaucoup plus âgées. Elle disait, mais tu sais, Mariana, moi, je veux faire comme toi. Je veux créer un groupe en Suisse allemande. Et 2 ans plus tard, avec l'aide d'une infirmière, elle a créé le groupe Labyrinthe. Magnifique. Où elle est allée aussi extrêmement activement à des réunions. Mais depuis 2018, Rita pouvait plus gérer le voyage depuis le canton de Zoug jusqu'à Marsens, jusqu'à canton de Fribourg. Et nous avons gardé le contact. Et puis un beau jour en 2020, elle m'a avisé que son dossier s'est concrétisé auprès d'Exit et qu'elle va partir en juillet 2020. 15 jours avant son départ, nous sommes allés encore la voir. Elle n'a absolument pas changé d'avis. Avec beaucoup de gentillesse, elle nous a encore accueillis. C'est magnifique de voir cette dame qui est maintenant à l'âge, donc on est en 2020, à l'âge de 61 ans, elle a lutté pendant plus que 10 ans contre la maladie. Elle est restée déterminée de pas aller plus loin, de pas vivre des stades avancés de la maladie. Par ailleurs, en allant manger à l'EMS, elle a bien vu ce que c'est. En plus, elle avait 2 jeunes enfants, au fond, c'était en 2020, ses enfants avaient 26 et 29 ans. Elle voulait pas qu'ils vivent les stades avancés de sa maladie. Elle voulait pas laisser cette image d'elle-même. et avec beaucoup de dignité, elle est partie en 2020, tout en préparant pour ses enfants et pour toute sa famille. Donc, c'est un exemple extraordinaire, comment on peut rester déterminé, comment on peut être aussi dans l'acceptation d'une maladie difficile et surtout de relever le défi de rester le plus longtemps possible relativement autonome. Et ce qui était beau aussi de la part de cette infirmière, qu'elle a su demander de l'aide, parce que c'est assez fréquent, voire même trop fréquent, que je constate qu'il y a beaucoup de malades et beaucoup de familles qui ne demandent pas d'aide. Et puis on arrive dans des situations de crise et tout est trop tard. Et les choses sont décidées dans l'urgence, donc c'est dramatique. Pour conclure, quelques mots de conclusion. Tout d'abord, j'aimerais juste redire qu'il n'y a pas de tsunami Alzheimer. Tous ceux qui avancent en âge, nous ne serons pas du tout, nous tous, malades d'Alzheimer à l'âge avancé. Et si jamais il y a un diagnostic d'Alzheimer tombe, eh bien, c'est possible de faire face à la maladie et pendant bien quelques années de bien vivre avec, autant nous-mêmes en tant que malades et nos proches. C'est possible de se donner du temps pour réfléchir, de bien prévoir, faire ses directives anticipées, faire son dossier exit. Donc, c'est possible de partir avec exit à condition de faire, avant que cette capacité de discernement disparaisse, donc partir, ma foi, un tout petit peu plus vite. Mais si on prend l'exemple de Rita, elle a tenu plus que 10 ans. Donc, vous voyez, c'est pas peu. Et puis, posons-nous la question, mais qu'est-ce que nous pouvons faire, nous tous, maintenant et pour l'avenir? Mais je dirais que nous devrions démystifier encore davantage la maladie d'Alzheimer et aussi l'autodélivrance. Ça ne doit pas rester des sujets tabous. On devrait favoriser des descriptions beaucoup plus réalistes des malades en donnant la parole aux malades. Dieu merci, de plus en plus, il y a des malades qui témoignent, qui écrivent des livres, qui donnent des interviews à la télé ou dans les journaux. Donc, c'est très important. Il faut donner la parole aux malades. Il faut arrêter avec ces images épouvantables de la maladie parce que c'est faux et c'est exagéré. Deuxièmement, bien sûr, au sein de notre société, nous devrions encore améliorer les soins et les accompagnements des malades et de leurs proches. D'ailleurs, on devrait favoriser que les personnes concernées, les proches, deviennent membres de l'association d'Alzheimer, qu'ils découvrent quand même des lectures utiles, qu'ils aillent dans des groupes d'entraide, etc. C'est également possible d'accepter le cours naturel de la maladie, mais ça veut dire sans surmédicalisation. Il y a des malades, il ne faut pas croire que tout se passe toujours tellement dramatiquement mal. C'est faux. Il y a bel et bien des malades bien heureux. Il y a des proches aidants qui font un travail extraordinaire et c'est une belle preuve de capacité de faire face, de résilience. Donc, ce qu'on devrait éviter, c'est la surmédicalisation de la vieillesse et de la maladie d'Alzheimer. Donc, on devrait éviter l'acharnement thérapeutique. Et en dernier lieu, peut-être aussi en ce qui concerne l'avenir de notre société, on devrait un tout petit peu avancer sur le chemin de la légalisation et la dépénalisation de l'euthanasie quand il y a des directives anticipées claires. Ça pourrait être une bonne chose. Parce que, hélas, j'ai quand même accompagné et j'ai vécu beaucoup de situations où ce fameux cap était loupé et ça donnait en réalité beaucoup de souffrance et à ce moment-là, principalement pour les proches. Quand le malade voulait partir, mais il voulait encore attendre, au fond, tout récemment, j'ai côtoyé une charmante patiente qui voulait attendre encore la naissance de son petit enfant, le premier petit enfant. Eh bien, quand le petit est arrivé, madame, elle n'a déjà plus compris qui est ce petit enfant, ce petit bébé. Donc voilà. Donc, ce qui est délicat, c'est l'attente de toujours repousser. Et effectivement, ce qui est difficile pour les malades d'Alzheimer, c'est de pouvoir choisir le moment un peu plus vite, et partir avec l'aide de l'exit. Merci beaucoup.